です。
On va faire une conférence d'une petite heure, enfin, ou d'une grande heure, mais enfin, on verra bien comment les gens réagissent. Bon, alors la méthode que je vais adopter, messieurs, dames, que je salue bien. Bonjour tout le monde. Alors vous avez en face de vous quelqu'un quand même qui est un peu fatigué depuis quelques années. Donc je me permettrai de faire des alternances debout, assis, parce que je ne peux plus tenir très longtemps. Voilà. Je dis bien debout parce que j'aurai à commenter quelques tableaux qui sont ici dans l'église et qui sont la clé de voûte de toute une histoire de Chassagne dont vous ne vous doutez absolument pas.
Oui, alors je voulais quand même accueillir M. Mesmer parce qu'il était quand même sympathique. Il y a des rencontres qu'on fait quelquefois qui ne sont pas toujours formidables, mais il y en a une certaine de nos vies qui sont vraiment impeccables. Le jour où j'ai rencontré Yves, on est resté trois quarts d'heure à discuter. Et puis, c'est un homme passionné et sa passion, il sait la partager et j'avais envie de vous la faire partager. Voilà. Donc, j'ai dit à M. Mesmer, écoutez, moi, il faut absolument que vous montiez à Chassagne. Nous raconter tout ça parce que on a beau essayer d'aller sur internet naviguer, on n'a quand même pas la passion ne passe pas aussi bien que quand celui qui nous raconte. Donc voilà, monsieur Messner, merci d'être là. Et puis, ceci, je vais laisser la parole, là vous avez vu la parole de moi.
Ben, disons qu'on va essayer. On va essayer. Moi, je vous remercie de votre accueil. Je suis assez ému d'ailleurs parce que ça fait des années que je ne fais plus de conférences. Et j'essaie là pour le moment de me relancer un petit peu. J'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par une petite anecdote qui n'a vraiment rien à voir avec Chassagne, mais qui y conduit quand même. Donc, c'est bon à nouveau, voilà. Un attentat. Oui, il s'est passé quelque chose il y a trois semaines à peu près. Un président du foot, de la FIFA, Blatter, a été mis en cause. Et puis, on a mis aussi de l'UEFA, Platini. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Platini dans cette affaire? Mais voilà, il y a quelques années, ça fait déjà un bon moment, on a construit un stade et on ne savait pas quel nom lui donner. Ce stade, qui allait devenir le stade de France, a été l'objet d'un concours ou d'une sollicitation, c'est-à-dire qu'on a sollicité les gens de France pour lui donner un nom avec un prix à la clé, en argent. Alors moi, j'ai écrit en tant que président de la Société d'Histoire locale et j'ai proposé un nom. Bon, c'était Eleutheria, en référence à Athènes, au grec. Eleutheria, ça veut dire la liberté. Donc j'ai dit, on pourrait appeler le stade Eleuther, d'autant que Eleuther, c'était un double de Saint-Denis. Que le stade se construisait à Saint-Denis, et donc j'ai proposé Eleutheria, stade de la liberté. Naturellement, j'ai envoyé mon dossier au secrétariat de la mairie de Saint-Denis. J'ai jamais eu de réponse, mais j'avais un récépissé parce que je l'avais envoyé en recommandé quand même. Et puis, 15 jours après, j'ai appris que Platini avait trouvé un nom. Il avait trouvé un nom, le Stade de France. C'est bizarre, parce que le mot « franc » veut dire « libre ». Et que naturellement, ça dit, comme Roissy d'ailleurs, c'est toute l'île de France, et que nous sommes Saint-Denis en France, et Roissy en France. Tout le nord de Paris, c'est un pays franc, soumis à la franchise. Et là, on arrive à Saint-Denis. Je ne dirai rien sur le commentaire à propos de Platini. La télévision finira bien par en parler d'une manière ou d'une autre. Je ne l'incrimine pas forcément, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Bon, eh bien, là, nous rentrons de plein pied dans l'histoire de Saint-Denis. Alors, nous sommes à Chassagne. Il y a une dizaine d'années, en 2004, donc 11 ans, au mois de novembre, j'ai fait une conférence à la mairie du 9e arrondissement, j'ai été invité par les Parisiens, sur les Parisiens, sur Saint-Denis et Sainte-Geneviève, qui nous dominent dans ce vitrail-là que j'expliquerai tout à l'heure. Et j'ai été très apprécié, j'ai été enregistré. C'était la première conférence qu'on enregistrait. Elle a été retranscrite par une société d'histoire de Paris, qui s'appelle le Groupement de l'Île-de-France en mythologie. Et cette conférence, vous l'avez en entier, retranscrite sur Internet. Donc, monsieur le maire connaît le site, www.mythistoria.org. Donc vous tapez, pour être beaucoup plus simple, vous tapez sur Internet, sur Google, Yves Mesmer, et vous tombez sur mon site. En sixième position, vous trouverez des modalités de soins de l'âme, je crois, ou des corps, et vous allez trouver une chance terrible, une photo, où on voit un linteau d'une fenêtre, c'est le linteau de la fenêtre qui est là, de Chassagne. Nous la voyons en extérieur. Vous allez faire une découverte étrange quand on sortira à la fin de la conférence. Mais je veux en faire le commentaire immédiat. Est-ce que quelqu'un parmi vous, sauf les initiés que j'ai donc avertis, est-ce que quelqu'un parmi vous a découvert au-dessus de la porte d'entrée quelque chose? Est-ce que les gens de Chassagne connaissent leur église? Non. Comme ils ne connaissent pas le linteau qui est une pure sculpture gauloise, avec preuve à l'appui, que je vais vous montrer. Et est-ce que vous avez vu l'arbre de vie qui est au-dessus du linteau de l'église? Oui. Donc c'est le linteau au-dessus de la fenêtre de la sacristie. Donc j'ai confondu les fenêtres. Donc c'est la fenêtre de la sacristie. Oui, il y a effectivement l'arbre de vie à quasiment identique. Alors là, vous avez un superbe spécimen. J'enverrai bien quelqu'un très rapidement me dire comment sont les branches de cet arbre. Est-ce que quelqu'un peut aller juste au-dessus? Là, non? Il n'y a pas un... Madame? Oui, oui, à la sortie, là, juste derrière la porte. Vous me dites comment sont la forme de cet arbre, des branchages. Il n'y a pas de branches. Il y a un tronc. Vous la voyez? Mais ça y est, vous l'avez dit. C'est monté de toutes pièces, naturellement. Non, il y a un tronc, et le feuillage, c'est des feuilles de gui. Vous verrez la même chose là-bas. Bon, ces feuilles de gui sont une représentation d'un arbre, naturellement. Ça vous suggère quelque chose. Quel arbre ça vous suggère? Le gui. La récolte du gui se fait sur quoi? Chez les Gaulois. Allez, criez-le. Des chênes, des chênes. Que veut dire le mot cassanos en grec, en gaulois, qui a donné Chassagne? Ben voilà, vous avez tout compris. Alors dire que nos anciens n'y pensaient pas, c'est une erreur manifeste. Chassagne, c'est un nom gaulois. C'est beaucoup plus ancien que tous les noms qui l'entourent des autres villages. Nous avons en Chassagne, excusez-moi, monsieur le maire, mais une capitale celtique. Alors je vais vous lire quand même un petit passage de la cueillette du Gui, de Pline l'Ancien. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier non plus à ce propos l'admiration des Gaulois pour la plante. Les druides, alors nous sommes avec Astérix là, hein, et la serpe d'or, ça vous intéresse quand même. Hein. Chassagne et la serpe d'or, dit-on, c'est formidable ça quand même. Les druides, c'est le nom qu'ils donnent à leur mage, n'ont rien de plus sacré que le gui, et l'arbre qui le porte pourvu que ce soit un rouvre. Un rouvre, un chêne, rebours, ça veut dire la force. Donc vous êtes dans le pays de la force de vie. Et vous allez voir que tous les pays aux alentours recherchent aussi ce thème du chêne force, y compris dans un grand peintre que nous allons aborder en finale. Le rouvre est déjà par lui-même l'arbre qui choisisse pour les bois sacrés. Nous sommes dans un bois sacré. Vous allez voir que j'en ai la confirmation sur le cadastre. Et ils n'accomplissent aucune cérémonie religieuse sans son feuillage, la couronne de lierre, de chêne, qui était symbole de la victoire, beaucoup plus que le laurier, qui n'est pas du tout un européen de laurier, c'est méditerranéen. Au point que l'étymologie de leur nom de druide pourrait passer pour grec, effectivement, drus, drus en grec, ça veut dire le chêne. Et c'est effectivement la vraie réponse, c'est les hommes, les savants du chêne, les très savants du chêne, ceux qui connaissent tout sur le chêne. C'est un fait qu'ils regardent tout ce qui pousse sur ces arbres comme envoyé du ciel. Ça, c'est très important, envoyé du ciel. Vous savez que le ciel, ils avaient une seule peur. Oui, les Gaulois, c'étaient des grands astronomes. Et vous allez voir que la concordance avec Saint-Denis est étrange, très étrange dans quelques instants. Et y voir un signe de l'élection de l'arbre par le Dieu lui-même, on ne sait pas lequel, le Dieu de l'arbre, le Dieu du chêne. On trouve très rarement du gui de rouvre, et oui, il y en a un dans la forêt de Chaume, mais c'est sur un pétoculé. Et quand on en a découvert, on le cueille en grande pompe religieuse. Ce doit être avant tout au sixième jour de la lune, qui marque chez eux le début des mois, des années et des siècles qui durent 30 ans. C'est des siècles de 30 ans, avec le chiffre 3. C'est toujours très important le chiffre 3. On va le trouver tout le temps dans l'histoire de Dionysios et de Saint-Denis. Jour choisi parce que la lune est déjà dans toute sa force, rebours, sans être à mi-cours. Mi-cours, c'est 6,5 ou 7,5, c'est-à-dire 13 jours pleine lune ou 15 jours pleine lune. Ce qu'on appelle les ides chez les Romains. Ils préparent selon les rites au pied de l'arbre un sacrifice et un festin religieux. Vous l'avez vu, ça, quand il y a le chanteur, comment je sais comment il s'appelle dans Astérix, le barde, qui est toujours attaché à un arbre pour qu'il se taise. Bon, alors nous avons le festin, naturellement. Vous savez que Signé et Uderzo, ils sont inspirés de ce texte-là. Ils ne s'en rendent pas, mais ils l'ont copié complètement. Et ils amènent deux taureaux blancs, c'est pas un hasard, dont les cornes sont liées alors pour la première fois. Ils sont encore taureaux. Un prêtre, vêtu de blanc, monte dans l'arbre, le lie avec une serpe d'or, et le reçoit sur un saillon blanc. Il s'immole ensuite des victimes, en priant le Dieu de rendre son présent propice à ceux auxquels il l'a accordé. Il croit que le gui pris en poisson donne la fécondité à tout animal stérile, qu'il est un remède contre tous les poisons, qu'il est un remède contre tous les poisons. Alors, il s'appelle la plante qui guérit tout. Omnia sanantem. Sanantem, santé, naturellement, tout omnia. Alors, ça, ce passage-là est extrêmement important, parce que le gui était vénéré par les Gaulois, vous avez vu le rite, mais ce qu'on dit aussi, c'est que ces sacrifices, malheureusement, qui pouvait être aussi humain, sans le départ. On n'ose pas trop le raconter, même les historiens maintenant ne le racontent pas trop. Jules César en parle, on faisait aussi des sacrifices humains chez les Gaulois. Et ça, ça pose un problème, et vous allez comprendre pourquoi, quand je vais expliquer l'histoire de Dionysios. Donc Dionysios, naturellement, il est lié aux chaînes. De quelle manière? Eh bien alors, on va encore vous raconter une petite histoire, avant d'arriver à Saint-Denis, naturellement. Cette histoire, c'est une histoire d'arbre, naturellement d'arbre de vie. Dionysios, c'est le dieu de l'arbre. C'est le dieu de la nature. Et alors, aujourd'hui, nous avons vu ce qu'il nous fallait pour la fête de la famille. L'évangile a été très bien choisi, l'épître aussi. L'épître, c'est la Genèse. Genèse, ça veut dire celui qui engendre. C'est la racine gay, on est d'accord. Et l'homme et la femme engendrent, créent, comme le mâle et la femelle dans la nature. Quelque chose d'essentiel. Et quand on parle de mariage, c'est aussi l'essentiel. C'est le but, avoir des enfants. Parce que la nature elle-même produit avec mâle et femelle. Avec des exceptions quand même. On n'y pense jamais, mais il faut le dire. Les oignons, les tubercules peuvent se reproduire sans fécondité mâle-femelle. Et ça, et la mythologie l'a bien relevé aussi. Narcisse. Narcisse qui se regarde dans l'eau, qui se trouve tellement beau qu'il finit par se noyer. Mais le narcisse peut se reproduire par lui-même. Mais il a quand même une fleur avec une fécondation et des graines. C'est quand même important à souligner. Bon. Je parle de la nature et de son exubérance. Le dieu de la nature et de l'exubérance, c'est Dionysos en grec, surnommé Bacchus en grec et Bacchus en latin. Alors on dit tout de suite c'est le dieu du vin. Oui, mais le dieu du vin c'est l'aboutissement. C'est d'abord le dieu de la force. Et la force est traduite par le lièvre, avant la vigne. Le lièvre, alors observez, vous qui êtes dans la campagne, vous allez vous promener, vous allez observer les arbres, notamment les chênes. Pas les hêtres, très peu. Pas les frênes, très peu. Mais les érables, et surtout les chênes, sont encerclés littéralement par des lièvres. Moi j'ai vu un lièvre, j'en ai un, qui a des veines. Alors ce sont des veines vivantes. Toute la mythologie de Dionysios, quand vous la reprendrez dans un livre mythique de mythologie grecque, c'est tout un envahissement, une véritable invasion des racines qui montent dans l'arbre et qui finissent par l'étouffer. Quelle est l'autre plante parasite qui étouffe aussi le chêne? C'est le gui, comme il étouffe le pommier. Cette exubérance finit par être mortelle. Et il y avait un symbole terrible. Vous n'allez pas regarder les arbres de la même manière maintenant. Vous allez penser à Dionysios et vous allez voir ces veines qui montent à travers les jambes et qui finissent par étouffer, qui montent jusqu'à la cime, jusqu'à la tête de la nature, mais aussi de l'homme. Quand je parle de Dionysios, j'ai en arrière-pensée Saint-Denis, hein, ne l'oubliez pas. Vous l'avez toujours en rapport, on verra tout à l'heure pourquoi. On le voit déjà dans les sculptures de l'Église, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce dieu Dionysios a quelque chose d'assez extraordinaire. Quand il est né, on l'a mis, alors sa naissance, et alors là je vais essayer de vous faire découvrir sa naissance, c'est vous qui allez parler. On appelle ça la maïeutique, en grec, ça veut dire l'accouchement par l'esprit. Le véritable professeur, le meilleur des professeurs, c'est celui qui fait accoucher l'élève de la vérité, Parce que tout homme, on considère que tout homme sait déjà tout, mais qu'il l'a dans son intérieur et dans son inconscient, qu'il faut le faire ressortir. Et là, dans le cas présent, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, il se trouve qu'il y avait une femme, la première femme, elle s'appelait la Terre-Mère. La Terre. Ça peut être Gaïa, Gé, en grec, Géographie, hein, celui qui dessine la Terre. Mais c'est aussi Réa, c'est aussi Gé, Mélé ou Déméter, la mère. Géméter, la mère de la terre mère. Et en phrygien, c'est Sémélé. Alors on a une légende Sémélé qui est extraordinaire. Elle est même très plaisante. Je me permets de la raconter, même si elle est limite au niveau ecclésiastique. Cette terre mère était amoureuse du dieu de la lumière. Elle qui est des profondeurs nocturnes, la terre c'est une profonde matière avec un sous-sol, et même des antres, des souterrains. Cette sémélète, cette presque Déméter, cette terre-mère était amoureuse du dieu de la lumière qui se manifeste même la nuit par l'orage, l'éclair. Vous avez deviné quel est ce dieu de la lumière et de l'éclair? Quel est ce dieu? Le dieu des dieux chez les Grecs et chez les Latins? Zeus ou bien chez les Latins? Jupiter. 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 Père de la lumière. Qui a donné diurne en français. Giorno en italien, le jour. C'est la même racine. Dies. Dies qui veut dire le jour en latin. Et Deus. Deus, la divinité. Parce que la divinité, elle est lumière. Dieu est lumière. Le dieu des dieux, c'est Zeus, même racine. Deus, qui veut dire le jour, la lumière et l'éclair. Tout ce qui jaillit. Alors, Sémélète, elle était la maîtresse de Zeus. Alors, il y en a une qui n'était pas contente, c'est la femme de Zeus, Héra. Junon, chez les Latins, par rapport à Jupiter. Junon, d'ailleurs, et Juno, qui est une jeunisse au départ. Donc, il y a tout un thème qui revient sur le taureau, la jeunisse, etc. Dont on a parlé tout à l'heure dans l'accueil du guide, n'oubliez pas. Alors, il se trouve que, naturellement, Héra est jalouse, et puis elle dit à l'oreille, écoute, demande à ton amant, au dieu des dieux, de se montrer tel qu'il est. Tu es amoureuse de lui, tu couches avec lui, bon, tu es unie avec lui, ben oui, la terre mère, elle est unie avec le jour et la nuit, hein, ça c'est bon, on peut parler contre la nature. Écoute, qui se révèle. Alors, à force d'être prié, Zeus se dit, ben, tu veux vraiment me voir? Mais me voilà. Tcham! Un coup d'éclair. La pauvre Sémélète, morte, fusillée par l'éclair. Elle est descendue aux enfers. Et je répète, elle est descendue aux enfers. Mais avant de descendre aux enfers, Zeus a eu un immense regret parce qu'il avait mis enceinte la terre-mère et l'enfant avait 6 mois de gestation. Donc, il a pris ce fœtus, il l'a extrait de la terre-mère, vous voyez les images, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il fallait qu'il arrive à terme. Dis-toi, il l'a engendré, il l'a mis quelque part, oui. Comment? Dans sa cuisse, tout à fait, qu'il a recousu. Et donc, l'expression, vous l'avez trouvée, il n'est pas né ou il est né de la cuisse de Jupiter. Bravo, bravo. Et c'est Dionysios, c'est donc Denis. Alors, nous avons comme ça des légendes très imaginatives, mais en même temps qui sont la nature. Chez les Méditerranéens, c'est le dieu Adonis. Adonai, c'est le titre de Dieu dans la Bible, Adonai. Ça veut dire le très grand, le très brillant, le très haut, Adonai. Et c'est devenu Adonis chez les Sémites. Adonis, lui, il est le fruit d'un inceste. D'un inceste avec Mira, qui veut dire la mire. Alors vous voyez un peu tout ce que ça peut donner comme connotation, la mire. Alors, Mira, pour son inceste, est donc transformé en arbre, l'arbre à mire, qui s'écoute avec des larmes de mire. Et c'est un sanglier qui, à 9 mois de gestation, transperce l'arbre à mire et fait accoucher Mira d'Adonis, le plus beau des enfants de la terre. Un Adonis. Et il y a, alors, malheureusement, il y a une malédiction parce qu'il est fruit d'un inceste, et il sera tué par un sanglier qui l'enfourchera, pareil, avec ses cornes. Et de là, il y aura une plante qui va rouge, une fleur rouge, qui s'appelle l'Adonis, qui symbolisera les larmes de tous ceux qui aimaient Adonis. Bon. Alors, j'ai parlé de sanglier. Ça vous dit quelque chose, le sanglier, par rapport à cet arbre? Le chêne. Les glands. Les glands, c'était la première nourriture. Est-ce qu'il y en a qui ont connu la guerre? Il y en a qui ont connu la guerre. Qu'est-ce qu'on faisait avec les glands pendant la guerre? Du café. Et quelquefois, qu'est-ce qu'on faisait aussi? Parce que je l'ai entendu chez un copain qui me l'a dit, et que pourtant pas, qui est né pendant la guerre, c'est tout. La farine. Les glands dans les chirurgies de Virgile sont la première nourriture de l'homme avant d'être celle du sanglier. Seulement, il y avait bataille entre le sanglier et l'homme pour bouffer, excusez-moi du terme, pour bouffer les glands. Alors, vous pouvez dire, je ne veux pas insister sur le mot gland, mais vous imaginez un petit peu les relations qu'il peut y avoir avec ce mot. Bon. On est toujours dans la genèse, dans l'accouplement et la création vitale de l'humanité et de sa nature. Alors là, maintenant, vous avez toutes les images qu'il faut. On va arriver progressivement à Saint-Denis. Alors, je vais encore vous raconter une histoire. C'est une histoire qui a été écrite au 6e siècle après Jésus-Christ. C'est la vie de Sainte-Geneviève. Merci Geneviève de me le rappeler. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Geneviève, elle a sauvé Paris de l'invasion d'Attila. Attila n'a pas attaqué Paris. Mais, disons que elle était passionnée. Au temps mérovingien, c'est les premiers mérovingiens, nous avons Chédéric, Clovis, etc. Nous sommes en 500 et quelques après Jésus-Christ. Elle est passionnée par le premier évêque de Paris, dont je raconterai l'histoire après, mais je vous le réserve pour la fin. Parce qu'on va venir avoir le tableau en même temps, en face, au maître-autel. Donc, elle habite à Nanterre. Nemeto du Rome, ça veut dire la forteresse du bois sacré. Ça a donné le mot Nanterre. Beaucoup de Nantes, de Nance, sont des Nemeto, ce qui veut dire bois sacré. Avec l'évolution phonétique, on arrive à Nantes, N-A-N-T ou N-A-N-S. J'insiste pas plus là-dessus. Mais, dont Sainte-Geneviève veut à tout prix bâtir une église dédiée à Saint-Denis, son premier évêque. Elle habite Nanterre au pied du mont Valérien. Ce mont Valérien, ça veut dire le mont de la santé puissante et de la force. Valéo, ça veut dire valéré, ça veut dire avoir de la valeur, mais avoir de la santé. Quand on disait à la fin du texte, je vous embrasse, on disait, venez, porte-toi bien, sois en pleine forme. Voilà. Et donc, cette montagne du Mont Valérien, elle a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une montagne faite de gypse et de calcaire à chaud. Et ça, c'est extrêmement important parce que le gypse, chez les Mérovingiens, mais même avant, servait à faire des constructions. Ça fait, avec la cuisson dans un chaudron, on fait du plâtre. C'est la matière, c'est la pierre à plâtre, de là les plâtres de Paris. Or, le nom de Paris vient du Parisis, un peuple qui faisait partie des Sénons, c'est-à-dire des Vénérables, à l'origine, et ça veut dire les hommes du chaudron. Les Parisiens sont les hommes de la cuisson. Alors, il se trouve que les architectes de cette future église viennent voir Sainte-Geneviève, lui disent « on n'a plus rien pour construire et édifier une église en dur ». Jusqu'à maintenant, c'était en bois, comme beaucoup de Gaulois. On était un peu tombé dans la type, je vais dire, pas la barbarie, mais enfin, on revenait quand même au temps ancien, alors que les Romains, les Gallo-Romains construisaient en pierre et en ciment. Là, on n'avait pas de matière. Ces deux envoyés entendent Geneviève qui leur dit, écoutez, allez-vous-en et écoutez les gens autour de vous. Ils sortent et là, ils entendent deux porchers. C'est très important, un porc, donc nous sommes dans les sangliers. Et il y a un boucher qui dit, écoute, j'ai vu une lèpre qui a commencé à labourer sous un arbre, sous un chêne, qui devait manger des glands. L'autre dit, ben moi j'ai vu, mais j'ai vu mieux que ça. J'ai vu qu'elle avait mis à jour des fours à chaud. Et ils ont trouvé naturellement de la chaux, de la pierre, chaud, ils ont trouvé de quoi la cuire, et ils ont trouvé de quoi cuire le gypse, la pierre à plat, et ils ont construit Saint-Denis. On s'aperçoit que la montagne Sainte-Geneviève en face de Paris, de l'autre côté, là où il y a le Panthéon maintenant, c'est une montagne de gypse, pareil. Toutes les collines de Paris sont en gypse. Or, Saint-Denis, Saint-Éleuthère, et Saint-Rustique, qui sont en réalité des épithètes de Dionysios de Lyon, qui veut dire libre, rustique, et le terre, et le terreau en grec, ont été martyrisés à Montmartre, qui est une montagne truffée de gypse. Le gypse servait à faire ce qu'on appelle des sarcophages. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que veut dire sarcophage? En tout cas, phage, vous le savez. Anthropophage, ça veut dire qui mange les hommes. Homophage, ça veut dire qui mange, non pas les homos, mais la viande crue, homé en grec. Sarcophage, ça sert à quoi? À dévorer quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, c'est ça. C'est des cadavres. Le sarcophage, c'est celui qui mange la chair. Sarcos, c'est la chair. Vous avez tout compris. Alors maintenant, vous allez comprendre encore plus. Je vais vous raconter l'histoire de continuer la naissance de Dionysos. Quand il a été éduqué par les hommes ce qu'on appelle les iliades en grec. Les iliades, ça veut dire les nymphes du chêne. Ça veut dire aussi les nymphes du sanglier. Uados, ça veut dire c'était des laits. Dionysios a été nourri sous les chênes, on en revient là, on revient donc à Chassagne, par des iliades qui étaient les nymphes du chêne et des sangliers. C'était des laits. Il était nourri et allaité, et puis il y a des géants, on appelle des titans, qui voyaient cet enfant exubérant et bien rôde. Nous sommes anthropophagiques et bien en chair. Ils l'ont attiré par des jouets et ils ont réussi à le capturer. Et devinez ce qu'ils en ont fait. On est toujours au niveau du phage. Ils n'ont pas fait un sarcophage, ils l'ont carrément rôti dans un chaudron, à la manière du gypse. En réalité, c'est ça. Donc, ils l'ont rôti, et puis alors il y a une déesse, fille de Zeus, qui est arrivée juste assez tôt, elle s'appelle Athéna, retenez bien le nom, c'est la déesse guerrière. Et c'est très important, c'est une déesse du combat, c'est le pendant chez les Grecs d'Arès, de Mars, chez les Latins. Cette Athéna réussit à sauver le cœur de Dionysios qui battait encore. Elle le rapporte à son père Zeus, qui a à ce moment-là banni les titans, naturellement. Et qu'est-ce qu'a fait Athéna? Une merveille. Elle a mis ce cœur dans une statue en quoi? Regardez. En quoi elles sont faites? En plâtre. Comme par hasard. Et nous sommes aussi à Paris, dans une montagne de plâtre, et Saint-Denis est martyrisé. Alors, qui était Saint-Denis? Saint-Denis, c'est un philosophe qui un jour est à Héliopolis en Égypte. Héliopolis, polis c'est la ville, Hélios c'est la ville du soleil. Vous allez voir, c'est formidable. Alors ça, vous l'avez dans la légende dorée. Toute la vie, alors je vous recommande, pour ceux qui aiment Saint-Denis, de lire le deuxième tome de la collection de livres de poche, ça coûte rien. Vous lirez l'histoire de Saint-Denis, d'abord astronome. Alors il est à Héliopolis, c'est une ville d'astronomie naturellement. C'est aussi la ville qui a accueilli l'enfant Jésus avec Saint-Joseph quand ils se sont sauvés, vous savez, au moment où Hérode égorgeait les enfants innocents. Ils sont réfugiés en Égypte, à Héliopolis. C'est pas un hasard. C'est un rappel de naissance. Alors, il s'est passé une chose formidable. C'est que, à la sixième heure, c'est Saint-Luc qui nous raconte ça, le Vendredi Saint. Le Christ est mort. Et à ce moment-là, il y a eu une véritable tempête, révolution terrestre. Il y a eu une éclipse. Une éclipse qui a duré, naturellement, 3 heures. C'est pas possible. Elle a été vue dans le monde entier parce qu'on a des témoignages recueillis par les écrivains. Donc, un écrivain qui s'appelle Denis Corinthe, comme par hasard il s'appelle, et il est saint d'ailleurs, c'est un des premiers évêques de Corinthe, saint Denis Corinthe, et qui a collecté ces informations. Il se trouve qu'on a perçu cette éclipse dans le monde entier connu de l'époque. Ce qui est impossible, puisqu'une éclipse, elle est toujours localisée. On en sait quelque chose, et l'éclipse de lune. La légende dorée raconte bien que la lune est passée devant le soleil, et qu'elle est restée 3 heures, et que la terre a été bouleversée. Et Denis d'Athènes, et maintenant on le sait, pensez à Athéna. Denis, qui était philosophe en Athènes et juge au tribunal de l'Aréopage, ce Denis, naturellement, a été frappé par cette chose-là. Et quand il rencontre à l'Aréopage Saint-Paul, il lui dit, je comprends maintenant pourquoi il y a eu cette éclipse, Saint-Paul lui explique. Il voit aussi une référence à l'Aréopage au Dieu inconnu et le Dieu inconnu. Alors, la réflexion qu'il a faite, ce futur Saint-Denis, qui ira à Paris ensuite, il a dit, le Dieu de la nature est en deuil au moment de l'éclipse. Donc on arrive au thème de Dionysios, parce que le Dieu de la nature, avant qu'il soit converti, ça ne pouvait être que lui, le Dieu de la force. Il s'appelle Denis et il parle du Dieu de la nature en deuil. Donc c'est le jour et la nuit, on a une alternance naturellement. Astral, je vous ai dit tout à l'heure que parlait du ciel. Là, on a l'évidence. C'était donc un astrologue. À l'époque, on n'avait pas d'astronome. C'était tout l'astrologie. On étudiait ça parmi les étoiles. Ce Saint-Denis, donc ce futur Saint-Denis d'Athènes, sera le premier évêque d'Athènes, naturellement, au pays de la déesse Athéna, qui a sauvé, rappelez-vous, le cœur de Dionysios. Ce Saint-Denis d'Athènes se convertit grâce à Saint-Paul. Donc, normalement, quand on a une dédicace à Saint-Denis dans une église, on a très souvent Saint-Paul. On devrait avoir Saint-Paul, c'est étonnant. J'ai cru le voir, mais enfin, bon, bref. Faudra l'acheter. Il y a un lien direct avec les apôtres, naturellement, dont Saint-Paul était l'éminent représentant. C'est lui qui le nomme, qui le consacre évêque d'Athènes, et naturellement il le consacre en tant qu'évêque de la liberté. Dionysios, que signifie Denis? C'est en rapport direct. On a plusieurs solutions. Personne, d'ailleurs tout le monde se bat naturellement parce que les universitaires ont l'art de se battre sur des futilités. Dio, ça vous rappelle quoi Dio? Dio, j'en ai parlé tout le temps. Oui? Le jour, la lumière. Donc ça peut être la lumière, mais di, ça peut être la racine de deux. Alors Dionysios, ça peut vouloir dire, puisqu'il est né déjà de sa mère et de la cuisse de Jupiter, il est né. Criez-le.
Deux fois,
oui, il est né. Dionysios est né deux fois. Ou bien, il est appelé, et on a une chose remarquable, né de la lumière. Ou bien Diokonos ou Diogenos, qui engendre la lumière. Rappelez-vous, j'ai dit Héliopolis, la ville du soleil, l'éclipse, parce que l'éclipse, elle ne fait que passer, et ensuite la lumière renaît, et donc la nature se. Vous avez déjà assisté aux éclipses du soleil? Il y a un silence terrible, et la nature renaît avec un soleil renaissant. Donc voilà le lien. Alors Saint-Denis d'Athènes va être envoyé par Saint-Paul, il est évêque d'Athènes, ensuite il est mandaté pour aller par le pape de l'époque. Alors on a deux solutions, j'allais dire. Tout ça, c'est une mythologie, ne l'oubliez pas. On est à la fois dans l'histoire, mais aussi dans le mythe. Si on ne comprend pas qu'il y a un mélange des deux, qu'on appelle la légende, on ne comprendra rien du tout à nos églises. Le pape Clément, à la fin du 1er siècle, envoie Dionysios, Denis, convertir les Gaulois. Il remonte avec deux compagnons, le prêtre et le clerc, et le diacre. Rustique, alors rusticus en latin, ça vient de rus rural, rus ruris, qui veut dire la campagne ouverte, c'est-à-dire libre, qui n'est pas parée. c'est des espaces libres, ce qu'on appelle des campagnes dans le sud. C'est surtout pas des bocages. C'est des grands champs de blé, comme dans la région de l'Île-de-France. C'est des immenses champs ouverts, on appelle ça des champs ouverts en termes géographiques. C'est extrêmement important. Rustique, ça veut dire celui qui est ouvert à tout, qui est libre, qui peut naître dans la liberté. Il les envoie à Paris prêcher. Alors, naturellement, maintenant, on le sait, Eleutheros et Rusticus, c'est le grec et le latin, qui sont des épithètes de Dionysios, le libre. Mais est-ce que quelqu'un connaît très, on ne sait jamais, le titre qu'avait Dionysios chez les Romains, avec l'idée de liberté? Non, personne. Il s'appelle Liber Pater, le père libre. Et le démon, c'est une racine le qui veut dire libre, le, qu'on va retrouver dans le nom de Leodgarius Léger, qu'on a fêté le 2 octobre. On s'aperçoit que tous les saints, jusqu'au 15 octobre, sont des saints de la liberté. Alors, vous en avez... Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on a Dionysios, qui est le symbole de la liberté, Eleuther, qui veut dire libre, Rustique, qui veut dire libre, et on a tous les saints dans le calendrier qui sont des saints de la liberté. Le 1er octobre, c'est Saint-Rémy. Qu'est-ce qu'a fait Saint-Rémy? Il a consacré Clovis. Il a lancé la première dynastie mérovingienne. Et donc, avec une traversée d'eau, il a converti, donc il est passé du stade du paganisme au stade de la chrétienté. C'est quand même bizarre. Saint-Léger, qui est patron de Sestan, juste à côté, est fêté le 2 octobre. Le 3 octobre, Saint-Éleuther et Saint-Rustique, qu'on va retrouver en fait le 9 octobre avec Saint-Denis à Montmartre. Et il y a le 4 octobre un saint fantastique du Moyen-Âge, auquel on ne pense jamais parce qu'il ne s'appelait pas à l'origine à son baptême, il s'appelait Jean. Ça, vous ne le savez pas. C'est le saint des pauvres par excellence. C'est saint François. François d'Assise, son père lui a donné le surnom de Français parce que ça voulait dire celui qui naît avec la liberté. Leodgarius Léger, ça veut dire le leude. Le leude, chez les Norvégiens, c'était l'homme libre, l'homme qui naissait libre. Alors, ça nous amène tout droit à la Révolution française. L'homme naît. Hein, vous connaissez la déclaration des droits de l'homme. Elle est inspirée. Donc, alors, on arrive donc à ce thème extraordinaire de cette liberté que les Parisiens revendiquent largement, que toute l'histoire va indiquer, et que nous retrouvons à Chassagne-Saint-Denis. Un château, alors nous arrivons au château. Et nous allons un peu conclure là-dessus, pour revenir au village et à notre peinture. On arrive à ça. Ce château, pourquoi Saint-Denis? Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu des fours à chaux? Ça, c'est quasiment sûr. Dans la région, il y a du gypse. Effectivement, il y a du gypse. Pascal Dallet m'a confirmé qu'il y avait des nids de gypse dans les marbres. Mais je pense plus à la chaux qui s'est fait à construire. Un château fort avant, au temps mérovingien, est-ce que les châteaux forts étaient en pierre? Non. Ils étaient en bois. Le château fort en pierre est le synonyme de, comme de l'abbaye de Saint-Denis, de la construction avec des pierres et du ciment. C'est ce qu'on appelle la fondation. Vous avez un autre castel Saint-Denis en Suisse. Ce n'est pas un hasard. Saint-Denis, c'est la base constructive d'érection d'une chapelle, d'un château. Alors, le nom de Saint-Denis, il est extraordinaire parce que Saint-Denis, c'est la représentation des francs hors la Franche-Comté. La Franche-Comté, naturellement, porte le même adjectif, franc. C'est le comté de Bourgogne. Alors là, on arrive à Audon IV, au château d'Arnon, qui possédait le château Saint-Denis, avec un village au pied qui s'appelait Seyas, c'est en Varais, mais ce n'est pas un hasard, puisqu'on est à la limite d'un territoire, et c'est quoi de Varais. C'est pas un hasard qu'on a ce nom de Varais. Le pays des chênes est le pays du Varais, de la toute-puissance, de la construction et de la liberté. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce château Saint-Denis, donc, sa chapelle cassante n'existera qu'à partir du XVIe siècle. Au départ, c'est l'église à Seyas de Cé. Et ensuite, ça va revenir ici parce que nous avons un pays de chênes qui est plus vaste qu'on croit. On a Clermont, Cé-en-Varais, Chassagne, qui est une véritable capitale parce que vous avez juste là en bas, monsieur le maire, vous le savez, à 200-300 mètres, la Combe, Malin. Or, Malin, ça veut dire c'est du gaulois. C'est Mediolanum, ça a donné Milan, Molin, Malin, Malin en Côte d'Or. C'est Mediolanum, ça veut dire le point milieu, ça veut dire c'est un point capital, point central de tout, avec le chef, naturellement, vous avez tout compris. C'est une sorte de clairière au milieu d'une forêt initiale pure, dans laquelle on vénérait les dieux. Mediolanum, la Combe Malin, Il n'y en a pas beaucoup des Malins, des Molins, des Milans. Il y a Milan. La fondation de ces villes, c'est formidable. On a une relation de Saint Apollinaire, du 4e siècle après Jésus-Christ, qui nous raconte que Milan a été fondée sur une peau sanglier. Avant de construire en dur, on enfouissait une peau de sanglier. Et on construisait la ville, on érigeait la ville sur cette peau de sanglier. On revient toujours au thème du chêne et de Chassagne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Saint-Denis, c'est l'expression même de la liberté, de l'érection à tous les sens du terme. Le mot érection, je m'excuse de parler nature, mais l'érection, c'est ce qui se dresse, c'est ce qui se construit. C'est ce qui donne la vie. Et c'est ce qui pousse l'érection d'un arbre, l'érection d'un château. Et ce château, eh bien, si vous ne le savez pas, c'est la seule reproduction qu'on ait de ce château, il est là. Alors on va se déplacer maintenant. Pour l'histoire de Saint-Denis, vous regarderez bien, je ne vais pas vous développer. On n'a pas le temps, et on va se fatiguer bientôt, puis on a soif. Donc, je vais maintenant vous faire visiter quelques tableaux de l'église. Alors, vous savez, je reviendrai une autre fois pour vous expliquer ce que c'est que les Ursulines, l'influence des Ursulines. Là, vous avez un tableau de cette Ursule, avec les 11 000 vierges massacrées. Donc, vous savez qu'il y avait des Ursulines à Ornon. Il y a un superbe tableau, et il y a eu une influence, parce que je crois, monsieur le maire, hein, confirmé, il y a eu une présence des Ursulines ici à Chassagne. On développera ça une autre fois, et c'est important de le noter, parce que vous avez d'autres représentations qui ont trait aux Ursulines. Hein. Alors, ce qui est aussi très important, c'est qu'on voudrait bien avoir la signature de ces tableaux. Et je vois ici le président de la sauvegarde de l'église de la Barèche. On est à la recherche de tableaux signés du maître de Courbet, que je vais aborder en sortant, là. Le père Roux, qui était un laïc, et pas un curé. Parce que maintenant, on sait qu'au séminaire d'Ornans, qui s'appelait l'école secondaire ecclésiastique, qui avait pris la place des Ursulines, comme quoi il y a toujours un suivi quand même, hein. Eh bien, ce père Beau était enseignant, Mais il s'appelle Père Beau comme on appelle le Père Besmer. Il n'y avait que le supérieur qui était prêtre. Les autres étaient tous des profs laïcs. Nous en avons la preuve maintenant. Nous travaillons beaucoup ensemble. Et nous sommes à la recherche de signatures du Père Beau parce que nous en avons découvert beaucoup. Et il y en a certainement dans les églises. Alors, comme le petit séminaire, l'école secondaire ecclésiastique où il enseignait, était la suite des Ursulines dans ce qu'on appelle le groupe Courbet actuel, l'ancien groupe Courbet, il est possible que nous ayons des peintures. Nous sommes à la recherche de traces, parce qu'on sait maintenant qu'il a peint des grands maîtres, qu'il a copié des grands maîtres. Il a fait des œuvres magnifiques. Une petite révolution s'installe progressivement là-dessus, qui débouche dès le mois de décembre sur une exposition Courbet et la religion. Donc au musée Courbet, vous aurez tout autour d'un chêne, qui est celui de Notre-Dame du chêne, qu'on trouve dans le retour de conférence, peint par Courbet. Courbet est obnubilé dans ses lithographies, dans ses peintures, par le chêne et par la Vierge Marie, qu'on va retrouver dans une autre peinture que je vous conseille d'aller voir à l'église de Saulle, à côté du Saint-Nicolas Courbet. Vous avez un Saint-Isidore avec en face Saint-Vernier et au milieu un chêne avec la Vierge Marie dedans, à l'intérieur. Personne n'avait découvert ça. Donc, on s'aperçoit que Chassagne prend une valeur essentielle. Monsieur le maire, vous allez nous raconter ce qui s'est passé à Rochester à propos de Courbet et de sa naissance. On croirait que c'est Dionysios. Allez, racontez, monsieur le maire. Non, on ne vous entend pas. Venez. Il faut que ce soit quelqu'un du pays qui le raconte.
Oui, en fait, on raconte que Courbet, ses parents descendaient par Chantran habituellement, alors qu'ils passaient toujours par Chassagne.
Voilà.
Et qu'il est à peu près garanti que Courbet est né au pied d'un chêne de Chassagne. Parce que il est passé par Chantran depuis le flagey. À part pour détourner l'histoire qui s'est appropriée, c'était déjà assez loin, on allait toujours au plus court. Hein.
Voilà, on prenait la route flagée, Chassagne. Alors, ce qui est incroyable aussi, pour confirmer vos dires, c'est qu'à flagée, qui était église fille de Chantran, si vous allez dans l'église mère de Chantran, vous allez trouver une sainte reine, une statue de sainte reine. Sainte Reine, la même qu'à Alice. Et Sainte Reine a été cuite dans un chaudron, comme par hasard. Vous voyez un peu.
Et j'ajoute aussi quand même que dans la mémoire des anciennes chassagnes, parce que moi je me connais ce que c'était des anciennes chassagnes, il y a certaines anciennes chassagnes qui ont entendu leurs parents, leurs grands-parents dire, qui savaient très bien où était l'emplacement du chêne.
Oui.
Les parents leur ont toujours raconté là, que pour eux, c'est là qu'il était libre.
Alors. Oui. Donc, apparemment, il est né en route. Au moins, légendaire en tout cas. Courbet n'a rien fait pour contredire cette légende. Et ça rejoint exactement parce que, naturellement, Courbet était accueilli au pays de Saint-Barré et de Mézières, chez les ordinaires. La maison des ordinaires se trouve à 10 mètres en face de celle où est née Cécile Mille. Et Courbet n'a jamais arrêté de peindre des chênes avec la Vierge. Vous irez à cette exposition à partir du 12 décembre 2015, autour du retour de conférence, on voit des prêtres essayer de monter des prêtres sur un âne qui est l'âne de Dionysios, entre nous. On retombe toujours sur le même thème. Courbet est imprégné par la mythologie qu'on enseignait au petit séminaire. J'ai les preuves de ce que, dans les programmes. J'ai retrouvé des programmes du petit séminaire. Donc, on a des preuves absolues qui fait qu'on a débouché sur une conférence, n'est-ce pas, Agnès? Et ça, c'est un soulagement parce que on va mettre en valeur le pays des chênes. Et ce n'est qu'un début. Je peux vous assurer, ce n'est qu'un début. Cette petite exposition ne sera qu'un début, une initiation au pays des chênes, avec à la clé Chassagne comme capitale. Vous vous rendez compte, monsieur le maire? Vous allez grandir tout d'un coup là, immensément. Alors nous allons nous permettre d'aller voir la peinture. Je vous explique tout de suite. On voit l'évêque Saint-Denis. Je l'explique pour l'enregistrement. Hein. On voit l'évêque Saint-Denis en face au maître, oui, au maître hôtel. Vous le voyez avec son, sa canne. Alors vous regarderez, elle est pointue au bout. Ça, comment ça? Sa crosse, voilà. Elle est pointue au bout. C'est très important ça, parce que dans les premières crosses, il y a une histoire de Saint-Patrick. Vous lirez aussi dans la Légende Dorée, dans le même livre, en deux tomes, l'histoire de Saint-Patrick. Vous verrez que pour convertir le roi d'Irlande, et convertir l'Irlande par la même occasion, il n'arrêtait pas, en racontant l'histoire de Dieu, de piquer les pieds du roi d'Irlande avec sa crosse. Ça n'enlève rien, mais c'est très important. Parce que souvent les crosses étaient faites en bois d'if, l'if qui est commun ici, et qui accompagne toujours l'échelle. Allez à Notre-Dame-du-Chêne, vous allez voir au pied de la statue en bas, vous allez voir des chênes, naturellement, et des ifs qui poussent naturellement. Ça va toujours ensemble. L'if étant l'arbre de la mort, ne l'oubliez jamais. C'est un peu, ça a été remplacé dans nos cimetières par les cyprès. Alors vous allez voir l'évêque, mais vous allez voir surtout le martyr. Et il porte sa tête, regardez bien la direction si vous la voyez, il porte sa tête en direction d'une montagne. Il y a la Loue qui passe à ses pieds, c'est la Seine à Saint-Denis, au Mont Valérien par exemple, à Montmartre, et au-dessus de ce oppidum, vous avez la seule représentation qui existe du château Saint-Denis. Eh oui, allez-y maintenant, on conclut là-dessus. Donc, et ensuite, on sort voir le linteau de la porte d'entrée et le linteau de la fenêtre de la sacristie qui représente le chêne avec ses fleurs à gui, ses feuilles à gui. Attendez, j'arrive, vous montrer le château.
Le nom d'Adonis, il faut le donner aux gens.
Ben bien sûr.
Émile Joseph Adonis.
Ben oui, c'est le nom du Seigneur, Adonai. Adonai, voilà, ça veut dire Seigneur.
Voilà pourquoi on donne aux gens.
En grec, voilà. Kyrie, si tu veux. Kyrie, Kyrie eleison, Seigneur, compliqué. Kyrios, ça veut dire Seigneur. Et en sémitique, c'est Adonai. Alors les feuilles à qui? Avant de partir, vous regarderez le livre là sur la chaise qui vous montre des symboles celtiques, de S celtique et de feuilles à gui. Hein? On feuilletera ensemble, vous allez voir des feuilles à gui, vous voyez là, vous allez les retrouver, exactement, excusez-moi, je vais me rassembler.
Oui, t'inquiète pas.
Bon, donc vous feuilleterez ces passages-là. Vous allez retrouver toutes les sculptures que vous allez retrouver dans le linteau et au-dessus de la porte de l'entrée. Nous avons des sculptures gauloises. Voilà. Les Gaulois n'écrivaient pas, mais ils sculptaient. Ce n'est pas d'inspiration gauloise. Ce linteau était certainement une reprise taillée en linteau d'une sculpture gauloise qui devait être. Alors, je suis étonné qu'on n'ait toujours rien trouvé sur le château Saint-Denis, mais... Je n'ai pas dit qu'un jour on va trouver. Alors regardez de très près sur le côté. Sur le côté, on voit le château. Une tour énorme. Vous voyez. Et alors, vous avez vu la bonne
décision. Je n'ai rien vu du tout.
On voit ça très bien sur l'ordinateur. Sur la droite, vous avez une tour avec une construction. Et vous avez naturellement Saint. Alors vous avez sur la droite aussi le martyr de Saint-Denis à Montmartre, en bas.
Hein, tout petit, on le voit. Il a sa mitre posée à ses côtés. Et ensuite, on le voit tout petit, mais avec l'ordinateur, ça grossit. C'est fantastique. Il porte sa tête jusqu'au château. C'est une peinture.
Hein? C'est ce qui est derrière.
Le personnage derrière, c'est lui-même en rouge. Il est en rouge.
Oui, d'accord.
Mais il est temps de protéger tout ça, parce que c'est une peinture de très grande valeur.
Elle date de quand, cette peinture?
Mais j'ai l'impression qu'elle date de l'époque de l'église. L'époque, c'est le 18e. Hein. Je pense qu'elle est du 18e, mais elle est sur un canevas plus ancien, puisque le château au 18e était déjà détruit. Je vous rappelle que ce château, alors c'est extrêmement important ce que je veux vous dire, a appartenu au comte Otoncalc, qui était un comte palatin soumis aux empereurs de romains germaniques, pas du tout à la France. Or, en l'an 1300, au traité, j'ai plus le nom en tête, mais le nom de la ville est important, c'est malheureusement une absence là, du nom, le traité bref, tant pis, vous le trouverez dans l'histoire. Il s'est rallié à la France, et il a marié ses filles, vous savez, c'est les filles de Othon IV et de Mao d'Artois, dans les Rois Maudits. C'est des filles qui ont un peu forniqué et qui ont trahi les Philippe V, Charles le Hutin, Philippe le Long, Louis le Hutin et puis Charles IV. Voilà. Donc, il y avait deux filles de Mao d'Antoine et leur cousine du duc de Bourgogne. Alors, c'est très important parce que c'est depuis ce moment-là que la comté, bien qu'elle retourne dans le giron ensuite germanique, abandonne l'aigle germanique pour adopter le lion de justice, qui est le lion de Vincennes, qu'on retrouve naturellement, au pied du chêne de Vincennes de Saint-Louis. Il rendait la justice au pied d'un chêne. Ah oui, et c'est le lion qui est resté l'emblème de la Franche-Comté, et c'est ce qu'on appelle le lion de Saint-Denis, et qui sera accompagné des oriflammes de Saint-Denis dans les batailles, l'oriflamme étant flamme à aurea, ça veut dire la flamme d'or, flamme rouge. C'était le drapeau des Francs et de la franchise de l'abbaye de Saint-Denis qui accompagnera les guerres et le royaume de France. Alors on a un paradoxe. Saint-Denis est la seule appellation quasiment de Franche-Comté. On a dans Paris, car à Saint-Denis aussi. Dans Paris, ça veut dire dans Patricius. Patricius, on retombe sur le nom du pater, Liber Pater. Mais Saint-Denis, on peut dire, est la seule appellation à Chassagne de toute la comté. On peut même dire qu'à ce moment-là, le castel Saint-Denis devient la capitale de la Franche-Comté, en tout cas au temps d'Othon IV, rallié à la France. Et le drapeau du lion de comté date de cette époque. Et il sera maintenu malgré l'Empire jusqu'à Charles Quint, jusqu'au roi Louis XIV qui démantèlera, comme par hasard, le château. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. On ne le pense jamais assez. Et le blason comtois doit, de cette époque de ralliement à la France, elle l'a conservé. Elle l'a conservé dans son nez, puisque son nom, le comté de Bourgogne, est devenu la Franche-Comté. Il n'y en a pas beaucoup de Francs, de régions qui s'appellent Franche. Il n'y en a qu'une. Celle de Saint-Denis. Voilà. Alors, on va aller voir le maillot. Alors, vous allez trouver des S. Regardez ce S. N'oubliez pas de regarder les S gaulois. Ça, c'est des pièces gauloises. Vous voyez le S là?
Oui.
Vous voyez ce S? Oui. On va le retrouver dans le linteau de l'autre côté. Les feuilles de gui. Les S, on les retrouve là. On les retrouve partout. Les feuilles de gui, regardez ça. Toutes des sculptures celtiques, hein, qui sont de l'Europe centrale. Puisque les bohémiens
étaient des Gaulois. En République tchèque, il y avait des Gaulois à l'origine. Regardez les S, regardez-moi ça. Regardez la lyre aussi, la lyre qui est symbolisée à Besançon. Partout, partout vous trouvez CS. Regardez ça, regardez. Toutes ces, alors là, là vous avez l'ensemble. Regardez bien ça, ce casque. S'il vous plaît, pour bien comprendre, messieurs, dames, je comprends que vous soyez passionnés par cette église, mais venez pour tout comprendre le linteau que je vais vous expliquer dehors. Regardez bien tous ces S, ces feuilles de gui, ces assemblages, comme une sorte d'arbre. Regardez là, regardez comment ça s'appelle maintenant dans le drapeau des rois de France. La fleur de lys. Vous avez la fleur de lys. Eh bien, vous allez la retrouver pareil avec les feuilles de gui. C'est exactement ça. Vous avez bien vu ? Je ferme. Allez. On y va. Ouais, tu peux manger. Oui, oui. Allez, on y va. Alors, regardez ici le linteau, vous l'avez vu?
Oui, on l'a vu. Mais, oui, moi je trouve. Question aux feuilles, je ne sais pas.
Les feuilles de gui.
De gui.
C'est les feuilles de gui.
D'accord.
C'est pas des branches, hein. C'est des feuilles de gui. C'est un arbre. Donc c'est le chêne qui est symbolisé. Vous voyez les feuilles de gui. Ces feuilles de gui, avec les feuilles de lys que je viens de montrer dans des sculptures celtiques, on va les retrouver.
Ah, d'accord, là-bas.
Voilà, on les retrouve ici. Vous venez un instant, s'il vous plaît, voir les linteaux. C'est vu? Ah ben ça. Alors si vous faites une photo, vous la faites en gros plan, vous allez voir, vous comparez les deux. Et...
C'est la même chose.
Alors nous avons, vous avez vu les dessins sur le livre, des reproductions. Alors vous avez le S, regardez le S gaulois. On appelle ça aussi les triskels quand ils sont en trois systèmes. C'est encore l'emblème de la Bretagne, des Bretons, des Celtes. Vous avez les deux au pied, les deux feuilles de fleurs de lys qu'on a vues sur le casque représenté dans le livre, hein, dont j'ai parlé, et puis les autres au-dessus, les feuilles de gui. Et puis même sur regardez le corps central de l'arbre, c'est le même que dans le linteau avec feuilles de gui. C'est pas des branches, c'est des feuilles de gui. C'est évident. Vous avez une preuve certaine de tout ça. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup.
C'est nous, c'est intéressant.
C'est de toute façon votre érudition.
Si j'ai été compréhensible.
Ah oui, très.
Bon, c'est l'essentiel.
C'est tout fut, hein.
C'est dense, disons.
Ça, donne, hein. Voilà. Ça donne envie de
continuer.
Regarder,
on va continuer avec un verre.
Vous allez pas regarder les arbres de la même manière. Quand vous allez voir le lierre, qui sert aussi de couronne à Dionysios, parce qu'avant d'être avec la vigne, c'est une couronne de lierre avec des graines noires. Vous regarderez bien les arbres dans la forêt ou dans les parcs quand ils ont le lierre qui finit par les tuer. Moi, j'ai un noyer, ça va dans les racines, dans le tronc. Ça rentre dans le tronc. Carrément, ça ne fait pas que rester sur les corps, ça rentre dans le tronc. C'est le parasite. C'est pire que le gui. C'est le tronc qui l'enveloppe.
Ah ben voilà. Je pense pas qu'il n'est pas parasite, le gui.
Alors, par écrit, vous demandez à monsieur le maire. Non, vous tapez Yves Mesmer sur Internet.